Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous. Deuxième partie aujourd'hui de notre best-of de la culture. Après avoir réentendu la semaine dernière les photographes Dana Kendrova et František Zvardoň, ainsi que le documentariste Karel Prokop, aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir quelques autres invités marquants de la rubrique culturelle cette année. You are my cotton flower. Rappelons tout d'abord qu'un des événements de l'année, c'est la victoire du court-métrage Baba à la Cinéfondation à Cannes. Premier film de fiction tchèque à être récompensé dans cette section étudiante, Baba a été réalisé par la tchèque Zuzana Špidlová, déjà remarquée par le directeur de la Cinéfondation Laurent Jacob il y a 2 ou 3 ans. On réécoute Zuzana Špidlová.
C'est le film qui était réalisé à la FAMU comme exercice d'école, comme l'exercice de 13e année. Ce film, il est né de mes expériences personnelles, mais aussi de recherches que j'ai fait ou de visites que j'ai fait au hospice. J'ai parlé avec des infirmiers, avec des gens qui sont malades. C'est l'histoire de la fille de 17 ans, 18 ans, qui doit s'occuper de sa grand-mère. Elle n'en est pas très contente parce que ça dure déjà longtemps. Elle reste enfermée dans un appartement. Elle vit seulement avec sa mère. Et sa mère, elle doit travailler, donc c'est la fille qui s'occupe de la grand-mère. Et peu à peu, elle commence à détester sa grand-mère.
Alors ce qui est intéressant, c'est que ça se présente un peu, j'allais dire, comme un espèce de huis clos très féminin. Il n'y a qu'un seul personnage, si je me souviens bien, un seul personnage masculin. C'est le petit voisin de cette jeune fille de 17 ans. Mais tous les autres rôles sont ceux des femmes, et c'est 3 générations de femmes. La jeune fille de 17 ans, la mère et la grand-mère. C'était important justement pour vous ce point de vue féminin ?
Oui, c'est très important pour moi. En fait, c'est parce que moi, je sais pas très bien écrire des personnages masculins, parce que comme je suis une femme, et comme moi, je m'intéresse surtout à la psychologie, à des rapports interpersonnels. Donc, comme je suis femme, je peux pas très bien faire une perception masculine. Donc, c'est pour ça, en fait.
Ce qui m'a frappée, c'est vraiment, la cruauté un peu des rapports, la cruauté des rapports entre déjà la mère et la fille, surtout entre justement ces 2 générations finalement, la petite fille et la grand-mère. Hein, la petite fille qui s'occupe de cette grand-mère est très cruelle finalement, n'a pas beaucoup d'égard vis-à-vis de cette dame qui est finalement mourante et pourtant qui est de sa famille. Hein. C'est quelque chose que vous avez observé ?
Oui, c'est ce que j'avais observé. En fait, bien sûr, comme c'est un court-métrage, c'est un peu exagéré. Je vais pas dire exagéré, c'est peut-être pas le bon mot, c'est concentré, disons. Donc, si c'était peut-être une long-métrage, ça ne serait pas tellement cruel, mais comme c'est un court-métrage, c'est tellement concentré que ça devient encore plus cruel. Mais je pense que la vie est comme ça, avec cette routine, parce que imaginons que cette fille, elle a 17 ans, elle sait pas même quoi faire avec elle-même, elle a des problèmes avec adolescents, tout ça. En même temps, elle doit être responsable, elle doit être enfermée, tout ça. Donc, je pense que c'est très naturel qu'elle devienne cruelle.
On passe à un peu de littérature maintenant. Anne de la Flotte Medevi est française, mais vit à Prague depuis 15 années. Elle est relieuse, mais aussi écrivaine. Et c'est sur ce beau métier de la reliure que porte son premier roman, La relieuse du guet, paru aux éditions Gaïa en 2008. Début 2009, elle nous avait raconté comment elle avait découvert cet artisanat.
C'est une découverte pragoise, c'est-à-dire que quand je suis 2-3 ans après mon installation à Prague, il était évident que j'allais pas pouvoir terminer ma thèse de doctorat et qu'il fallait que je pense à faire autre chose. Et lorsque la décision a été prise, donc de rompre avec la vie d'avant, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai fait SPA, qu'est-ce que j'aime définitivement les livres? Il se trouve qu'on connaissait avec mon mari un relieur, Monsieur Broche, que je suis venue voir et je lui ai demandé s'il voulait bien m'apprendre le métier, et il a poussé sur un coin de table quelques bouquins de la main. Il m'a dit « Assieds-toi ». Donc ça s'est fait de façon très simple. Je voulais faire de la reliure à cause des livres et parce que je me disais, vivant à l'étranger, que je devais être autonome au cas où je doive nourrir les gosses que j'avais que je voulais disposer d'un métier au bout des doigts. Ça me paraissait important. Et il me semblait évident aussi que si je commençais la reliure le même jour, je devais faire ce que je remettais depuis très très longtemps, c'est-à-dire écrire. Donc vraiment, les deux activités, elles sont nées le même jour.
Donc vous faites les livres, alors concrètement, en les reliant et vous les écrivez. Du coup, votre premier ouvrage traite de la reliure. C'est un peu symbolique, un peu quelque chose du destin peut-être qui se joue là, puisque finalement c'est un livre sur votre métier. Est-ce que ça a été aussi dur pour vous de parler ou de mettre des mots sur votre activité de tous les jours dans ce livre ?
La gageure du départ, c'était est-ce que je suis capable techniquement de décrire des gestes très techniques sans tomber dans la brochure justement. Voilà, je me suis dit, est-ce que je suis capable de ça ? Alors qu'est-ce que je connais comme gestes techniques ? J'aurais pu décrire une femme dans sa cuisine ou un homme ou un enfant en train de faire un gâteau ou des crêpes. Ça, je pourrais le faire, mais le piano éventuellement, des gestes musicaux, mais définitivement, c'est la terminologie de la reliure qui s'est imposée.
On reste dans le domaine littéraire avec le beau roman de Claire Legendre, L'écorché vive, sorti chez Grasset en juin dernier. Claire Legendre est originaire de Nice, mais vit à Prague depuis près de 2 ans.
L'écorché vive, c'est un roman que je porte depuis très longtemps, dont j'ai eu en fait l'idée il y a quelques années, après avoir croisé dans la rue une jeune fille qui avait un visage déformé. Elle devait avoir 13-14 ans. J'ai croisé son regard et j'ai compris qu'elle était intelligente, forte, digne, déterminée. J'ai éprouvé une certaine honte de ne pas savoir cacher mon trouble en face de ce visage déformé. C'est une image qui m'a poursuivie, d'autant que j'ai appris que cette fille était effectivement quelqu'un de très doué en classe, de très fort, de très déterminé. Quelques années après, quand on a parlé des premières greffes de visage en France, j'ai repenser à elle et je me suis dit que peut-être elle allait pouvoir un jour, par ce biais-là ou par un autre biais chirurgical, avoir un visage entre guillemets normal, visible par tout le monde. Et peut-être, c'est toujours ce à quoi on pense en premier, avoir une histoire d'amour. Et là, je me suis demandé si, en admettant que tout cela soit possible, si elle aurait le courage ou la folie de montrer le visage qu'elle avait eu avant à un homme qui l'aimerait. Et c'est de là qu'est parti l'écorché vif que j'ai fini par écrire après qu'il y ait eu plusieurs greffes de visage en France et donc une actualité très dense à ce niveau-là.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la couverture de votre livre, L'écorché vive, c'est un tableau de Egon Schiele. Egon Schiele, dont on sait justement, dans sa représentation des corps, c'est des corps assez tourmentés, qui ont souvent, on a l'impression, l'utilisation du rouge, que c'est des blessures finalement. En lisant votre livre, moi j'ai pensé aussi à Francis Bacon qui a ses visages complètement déformés. Je me disais que ça aurait pu être très bien une couverture pour votre ouvrage.
Alors c'est vrai que dans le livre il y a des références à Bacon, à Soutine aussi. J'aurais certes aimé que la couverture soit un tableau de Soutine ou Bacon aussi. Pour des raisons annexes qui n'ont rien de littéraire, c'était pas possible. Mais Egon Schiele, c'est vraiment quelqu'un que j'admire depuis très très longtemps. Donc j'avais déjà eu une peinture en couverture de viande en livre de poche, hein, que j'avais choisi à l'époque. Je crois qu'on pouvait pas trouver mieux pour illustrer ce roman. Bah oui, il y a cette crudité, il y a cette nudité extrême chez Schiele qui fait que on peut pas aller au-delà de cette comment dire, de cette vision du corps. Je pense que c'est vraiment une vision extrême. Et quand on est dans un musée en face des tableaux de Schiele, on se sent vraiment nu soi-même. Je veux dire, le regardant est aussi terriblement agressé par ce qu'il voit.
Et puisqu'on parle d'Egon Schiele, eh bien, il a inspiré une autre personne, le peintre américain Jesse Little, qui vit à Prague depuis près de 15 ans.
N'ayant jamais peint de ma vie, c'était en cours de morpho au Beaux-Arts, justement, où c'était un amphithéâtre énorme, où il y avait des mecs devant moi qui dessinaient à main libre des trucs incroyables, des chevaux, enfin, hallucinants. Moi, j'étais pas capable de tenir un crayon, presque. Et puis, il a commencé à montrer un beau jour des diapos de Egon Schiele. Et voilà, c'était fini pour moi. Je suis devenu peintre sans avoir jamais touché un pinceau de ma vie, sauf enfant.
C'est une transition toute trouvée, puisque j'allais te dire que tes toiles me font beaucoup penser, en tout cas certaines, évidemment, à Schiele, ne serait-ce que par un espèce de mélange à la fois d'expressionnisme et de cubisme à la fois. C'est ce qu'on retrouve en tout cas chez Schiele.
Je prends ça comme un grand compliment, bien sûr. Schiele, c'est tout dans sa ligne, et sa ligne est incomparable.
Même parfois aussi, j'allais dire, il y a quelques-uns qui m'ont fait penser aussi, même à Klimt, je pensais, notamment à tes tableaux aquatiques, ceux où on voit des femmes dans l'eau, en fait. Ça me fait penser à des espèces de nymphes, en fait, qu'on voit, par exemple, dans certains tableaux Klimt. Qui était quand même le maître de Schiele, on le sait.
Le maître de Schiele, mais pas vraiment. En fait, il était le précurseur de Schiele, bien sûr. Tu sais ce qu'il a dit à Schiele quand Schiele, à 17 ans, est allé le voir avec son portfolio de dessins. Il a dit, maître, am I any good? Est-ce que je suis bon? Et Klimt a regardé ses dessins et il a dit, beaucoup trop bon. Avec apparemment un dégoût presque. Parce qu'il était Schiele depuis l'âge de 4 ans. Il y a des dessins qu'il a fait à 4 ans. Il était incroyable. Je crois que parmi tous, autant les Picasso, les Klimt, les Giacometti sont tous incroyables et ont tous leur sauce. Il n'y en a pas un qui a une ligne comme celle de Schiele, qui a une écriture, c'est pas du travail de dessin, que ce soit académique ou pas académique. Par exemple, j'ai vu des dessins de Klimt au musée à New York, le Nawa Museum, où il y a plein de dessins qui sont des dessins qu'il a fait pour l'étoile qu'on connaît. Et il y en a qui sont assez nuls. C'est des dessins où il cherche sa forme, il cherche son truc, et tu vois toutes les fautes qu'il fait, et bien sûr, il les a vues lui aussi, mais alors que Schiele, bien sûr, apparemment, il foutait tout à la poubelle, tout ce qui n'était pas parfait, ça, on savait aussi, mais en même temps, à mon avis, c'était différent, c'était pas des trucs bancals, ça marchait pas, c'est juste, il avait une écriture, c'était pas un mec qui recopiait des formes, des angles, des machins. Il y avait vraiment une sorte de fluidité, une écriture. Il y a des moments dans ses dessins où il n'y a rien de juste, mais entre les lignes qui se croisent, c'est juste. C'est-à-dire que tout reste en mouvement et c'est assez incroyable. You've seen a thousand like me.